L'année 1984 s'écoulait alors dans une nonchalance teintée de tension. Aux États-Unis, Reagan, avec son charme cow-boy, déroulait un film à grand spectacle contre l'Empire soviétique, où les missiles clamaient leur vérité plus fort que les diplomates. De l'autre côté de l'Atlantique, Margaret Thatcher, l'indomptable dame de fer, resserrait son étreinte sur la politique économique britannique, la main aussi ferme sur les rênes de la privatisation que sur son célèbre sac à main. En France, François Mitterrand, sur fond d'inflation et de chômage, tentait de convertir le pays au tournant de la rigueur. Pendant ce temps, en Suisse, Bellevue, un joyau discret situé entre Genève, le lac et la frontière française, continuait de déployer son élégance retenue. Ces villas d'un blanc immaculé ou d'un pastel subtil, ces chalets Heimat style, dont l'intérieur, meublé avec soin, reflétait la discrétion calviniste de ses occupants, se dressaient le long de rues si calmes qu'elles semblaient soumises à un couvre-feu tacite. Chaque jardin rivalisait de perfection dans une compétition de roses les plus rouges et de pelouses impeccablement tondues. Plus loin, dans les profondeurs des terres, les sous-bois de chênes et de châtaigniers offraient des échappées où se devinaient les lointains vaudois. À l'extrême opposé, Port Gitana, jadis fief d'une Rothschild, puis scène de concerts et de théâtre financée par un philanthrope prodigue qui avait accueilli Jean-Luc Godard, Sacha Distel, Claude Chabrol ou Jeanne Moreau, était devenu un centre de loisirs nautiques où le drapeau aux armoiries de la commune, d'or, à trois aiglettes de sable armées béquets et lampassées de gueules, claquait fièrement au vent. Au-delà, le lac, ses voiliers et bateaux à vapeur glissant sur l'onde, en arrière-plan, le môle et le salève, et plus loin encore, dans une perspective presque céleste, le majestueux Mont-Blanc. Les résidents de Bellevue, un mélange de vieilles familles genevoises et d'expatriés probablement attirés par l'air frais de la diplomatie internationale, échangeaient des civilités lors de réceptions où l'on parlait anglais, français et allemand, passant d'une langue à l'autre avec une aisance qui frisait la performance artistique. Derrière leurs sourires mesurés, et leur verre de chardonnay, ils discutaient des affaires mondiales et des trivialités locales avec une gravité laissant supposer que le destin de Bellevue, sinon du monde, en dépendait. Tous se sentaient moins suisses que genevois, moins genevois que belvistes. Les vaudois étaient arrogants, les uriquois drogués, les valaisans bouseux. Quant à ceux du canton de Neuchâtel, ils étaient insignifiants et c'était pire. Les Milstein, famille de mélomanes passionnés, savaient donner vie à ces réunions. Dans leur demeure bordant le Léman, ils organisaient des déjeuners après lesquels leurs enfants, Esther, Nathan et Martin, offraient des concerts à un auditoire choisi. Martin au piano, Nathan au violon, Esther au violoncelle. Ce jour de fin février 1984, il faisait extraordinairement beau. Le Fön, venu des Alpes, avait dévalé les pentes, libérant les terres de leur engourdissement, balayant à Bellevue les dernières traces d'un hiver qui se croyait encore maître du paysage. Le déjeuner s'était tenu en plein air, une de ces agapes où les adultes, absorbés par leurs préoccupations mondaines, relèguent les enfants au rang de simples intermèdes culturels. Nelly Milstein, la maîtresse de maison, coordonnait ces rencontres avec la précision du chef d'orchestre, conscient de son public. Grande tige blonde sculptée par 20 ans de régime, elle disposait ses invités autour de la table comme autant de petits fours sur un plateau, chacun à sa place, selon son poids social et culturel. Sa maigreur, fruit d'une guerre sans merci contre le moindre gramme, lui donnait l'air d'un squelette en issé miaqué. 40 ans plus tôt, drapée dans son manteau de neutralité, la Suisse avait offert le thé aux Allemands d'une main, tout en cachant maladroitement de l'autre la clé de sa porte de derrière par laquelle quelques Juifs, dont les grands-parents de Nelly, étaient passés pour trouver refuge. Lorsque la guerre s'acheva et que des comptes furent demandés, la Suisse, avec une dignité offensée, avait d'abord fouillé dans sa mallette pour présenter des excuses quelque peu froissées. Puis, au fur et à mesure que les enquêtes avaient révélé des montagnes de documents compromettants, le pays fut contraint de payer quelques compensations, tout en expliquant qu'il avait toujours fait de son mieux, sans perdre son sens de l'hospitalité. Les parents de Martin furent donc, dans les années 1970, invités à rejoindre la fête helvétique. Monsieur, un jeune et brillant avocat fiscaliste, et Madame, une pianiste émérite, étaient de ces individus que même la plus prudente des nations alpines pouvait non seulement accepter, mais célébrer, comme enrichissant sa société. On en était au café. Nelly Milstein, qui avait servi à tous des mets dignes des tables de rois en exil, jouait avec l'ami d'une boule de pain qu'elle n'avait pas même de tout le repas portée à ses lèvres. Martin était parti répéter à l'écart avec son frère et sa sœur. Alexis, resté à table, observait les petites pyramides de mie blanche que la mère de son camarade empilait soigneusement les unes à côté des autres, guettant le moment où on le libérerait de cet enfer. Brusquement, cette Margot, figée sur sa chaise depuis le début du déjeuner et à qui il n'avait pas adressé un mot, se leva avec une rapidité surprenante. Alexis suivit des yeux le froufrou d'étoffe bleue de sa robe, les longues spirales de ses cheveux bruns. Elle traversa le jardin, se mit à cueillir des violettes avant de disparaître derrière une statue d'Arétuse. Sans trop savoir pourquoi, il demanda à sortir de table et se dirigea vers la nymphe de marbre. Elle n'était plus là. Il fouilla un bosquet, puis un autre, en vain. Balayant l'horizon du regard, il finit par apercevoir une ombre bleue, là-bas, au bout du ponton. Elle se tenait contre l'horizon du lac. Puis soudain, tout bascula. Le lac l'accueillit dans un claquement sourd, referma sur elle sa mâchoire liquide. Margot s'était jetée à l'eau, comme on se débarrasse d'un caillou sans valeur. Alexis ouvrit la bouche. Sa langue resta collée à son palais. Le monde chavira. Le Léman était dans le ciel et le ciel, constellé de points blancs, gisait à ses pieds. Une note de piano venue de la maison flotta jusqu'à lui, le froid le gifla. Alors seulement Alexis reprit ses esprits. Ce n'était pas une histoire de Playmobil, pas une figurine de plastique tombée dans un précipice imaginaire. Ses jambes se mirent en mouvement avant même que son cerveau ne leur en donne l'ordre. Il courut jusqu'à la table des adultes. La mère de Margot se leva d'un bond. Son visage passa en un instant de l'incrédulité à l'horreur. Elle fit un pas, chancela, puis s'effondra, inconsciente. Le bruit de sa chute résonna dans un silence stupéfait. Quelqu'un cria, la foule des invités se scinda en deux, ceux qui restaient auprès de la mère et ceux qui s'élançaient vers le ponton. D'abord, on ne vit rien. Puis une forme que l'on avait prise pour une confuse masse de branchages troubla la surface de l'eau, et cette révélation les pétrifia dans ce qu'ils faisaient de mieux, avoir l'air concerné sans se compromettre. Henri Keller rompit le tableau sans un mot, sans même retirer sa veste, il plongea, nagea jusqu'à la petite fille, la ramena jusqu'à la rive. Dans un chaos de gestes, on extirpa l'enfant des eaux. Un liquide glauque s'échappa de ses lèvres bleues. Elle respirait encore, à peine. Sa main n'avait pas lâché la poignée de fleurs.